Shalom Ouvracha, Erev Tov, Lekoulam, Erev Tov, voilà, on est mardi soir, et on a donc notre rendez-vous du mardi soir, Erev Tov, Lekoulam, et comme d'habitude, donc, on va attendre un petit ok de la régie de la Midrashet Yehuda pour qu'on puisse commencer notre étude. Donc, dès que Midrashet Yehuda est là et me dit qu'elle est là, eh ben, c'est parti, on peut commencer. Donc, j'attends quelques secondes pour avoir donc mon ishour, pour pouvoir lancer notre shiour. Voilà, voilà. Le ishour, le ishour. Est-ce que quelqu'un m'entend? On m'entend? On m'entend bien? On m'entend pas? Shalom, shalom. Pas de réponse, bonne réponse. Bon, écoutez. Ok, on me dit ok, c'est super. Alors on y va, allons-y. Donc, Erev Tov Lekoulam, et je suis très heureux de vous retrouver pour notre deuxième session de la Neshama de la Mishnah. Je vous rappelle le principe de notre série d'études est de prendre des Mishnayot et d'essayer non pas seulement d'en comprendre la dimension halakhique qu'on évoque à chaque fois assez rapidement, mais d'en comprendre également la Neshama, c'est-à-dire quel est l'enseignement profond qui se cache derrière la halakha pure et simple proposée par la Mishnah. Et donc, dans notre première étude, on a étudié la toute première Mishnah du Talmud, et dans cette toute première Mishnah du Talmud, eh bien, qu'est-ce qu'on a pu y voir? On a vu que la question qui était posée a priori, comme étant une question technique de à quelle heure on peut dire le schéma, eh bien, c'est avéré, en fait, être une question beaucoup plus profonde, à savoir, est-ce que le peuple juif, en temps d'exil, donc la nuit, peut être toujours le vecteur de la transmission de l'unité du Créateur? Est-ce qu'on peut toujours être les représentants de la parole de Dieu sur Terre, et même en période d'exil? Et la réponse a été que, effectivement, que oui. Donc, on avait dit que c'était la première question à poser avant de pouvoir se lancer dans la Torah orale. Aujourd'hui, nous restons dans le traité de Brachot, cette fois toujours au premier chapitre, mais nous sommes dans la dernière Mishnah du premier chapitre de Brachot. Ça sera a priori notre dernière Mishnah qu'on va étudier ensemble dans le traité de Brachot. Après, on passera à un autre traité du Talmud, très certainement d'ailleurs le traité de Shabbat. Mais là, nous rentrons donc dans notre deuxième étude du traité de Brachot, Mishnah Hey Perek Aleph. Donc ceux qui veulent se munir de la Mishnah, mais en vérité, la Mishnah, vous la connaissez tous. Et oui, parce que cette dernière Mishnah du premier chapitre du traité de Brachot, eh bien, c'est une Mishnah très très connue, parce qu'en vérité, eh bien, on la lit et relit et re-relit chaque année durant le Seder de Pessah. Ce soir, nous allons essayer de découvrir ensemble, au travers de cette Mishnah, sa Neshama. Et ici, il s'agit tout simplement, ni plus ni moins, de la carte d'identité de Dieu. Nous allons essayer de dévoiler ensemble, au travers de cette Mishnah, quelle est bien, la façon dont Dieu se dévoile à nous. Alors, sans plus attendre, rentrons dans la Mishnah. Mazkirim Yetziat Mitzrayim Balelot. Recontextualisons l'étude. Maskirim et Tiad Mitzrayim Balelot, de quoi parle-t-on? La question est de savoir, on est dans le schéma, vous le savez, dans le schéma, il y a trois paragraphes. Il y a le paragraphe qui commence avec Shema Israël, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ensuite, le deuxième paragraphe qui dit Ve'ayayim Shamoa. Et le troisième paragraphe qui est la paracha de Tzitzit, Ve'ayemer Hashem et Moshe les morts. Donc ça, ce sont les trois paragraphes du schéma. Le premier paragraphe du schéma est là pour accepter Yichud Hashem, pour accepter l'unité du Créateur, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Le deuxième paragraphe du schéma est là pour accepter Ol Mitzvot, pour accepter les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Le troisième paragraphe du schéma, ce qu'on appelle Parashat Tzitzit, en vérité, son but, c'est de rappeler la sortie d'Égypte. Pourquoi? Eh bien, puisque à la fin de la Parashat Tzitzit, de la troisième paragraphe du schéma, on dit « Ani Hashem Elohechem, Asher Otseti Etrem Me'eret Mitzrayim, Yot Lachem Elohim. » Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour devenir votre Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on dit ce troisième paragraphe, pour rappeler la sortie d'Égypte. La question qui est posée ici par la Mishnah, ou du moins la réponse qui est donnée tout de suite, c'est de dire « Mazkirim Yetziat Mitzrayim Balelot ». C'est-à-dire qu'on doit dire le troisième paragraphe du schéma le soir. Ah ! Et c'est là que la Mishnah commence à rentrer dans quelque chose qu'on connaît, puisque, eh bien, à la suite de la Mishnah, on la retrouve dans la Haggadah. Puisqu'on nous dit « Amar Rabbi Elazar ben Azaria ». Rabbi Elazar ben Azaria, Nasi à Sanhedrin. Donc pas un petit joueur dans le domaine de la Torah. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Ari anikeven shivim shana. Je semble avoir 70 ans. Velo zachiti shete amer yetziat mitzraim balelot. Alors, recontextualisons. Quand la première phrase nous dit maskirim yetziat mitzraim balelot, c'est Rabbi Yehuda Anasi. C'est-à-dire qu'on est en l'an plus ou moins 200. Rabbi Elazar ben Azaria, on est en l'an plus ou moins, Rabbi Elazar ben Azaria, ça sera après la destruction du temple, c'est plus ou moins 120, Machoukazé, donc on est avant. Et donc, Rabbi Elazar ben Azaria nous dit, je n'ai jamais eu l'occasion, l'honneur, de pouvoir dire le troisième paragraphe du schéma le soir. « Lo zachiti, shete amer yitziat mitzraim balelot. » Ad Shederasha Ben Zoma, jusqu'à ce qu'arrive un chacham qui s'appelle Ben Zoma et qui dise Sheneemar, Leman Tizkor, il y a un verset dans la Torah, donc dans le livre de Devarim, qui dit Leman Tizkor et Yom Tzetra Meheretz Mitzrayim, Kol Yemecha Yecha. Ça, c'est la raison pour laquelle on doit dire ce troisième paragraphe du schéma. C'est parce que nous avons une mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte chaque jour. Seulement Ben Zoma vient et nous dit le verset nous dit. Pour que tu te rappelles de la sortie, de jour où tu es sorti d'Égypte, kol yeme chayecha. Nous dit Ben Zoma, le mot kol ne sert à rien. Puisque s'il n'était pas présent, eh bien, je dirais le man tiskor et yom setram eretz mitraim yeme chayecha. Pour que tu te rappelles de la, du jour où tu es sorti d'Égypte, les jours de ta vie. Si on n'avait pas dit tous les jours de ta vie, qu'on avait dit simplement les jours de ta vie, n'aurait-on pas tout de suite compris qu'il s'agit de tous les jours? Ben si, les jours de ta vie, ça veut dire tous les jours de ta vie. Et donc, Ben Zoma nous dit, ça veut dire que le mot « kol », s'il ne sert pas à nous dire tous les jours de ta vie, eh bien, c'est qu'il nous apprend autre chose. Et il nous dit, qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, ça veut dire qu'il faut le dire également le soir. « Kol ayom », c'est-à-dire et la journée et le soir. Pour lui, le mot « kol » nous apprend qu'on doit le dire et la journée et le soir. Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Chachamim disent, tu as raison de préciser que le mot kol vient nous apprendre quelque chose d'autre. Mais ça ne vient pas nous apprendre qu'on doit dire la troisième partie du schéma le soir. Cela vient nous apprendre qu'il faut le dire bekol ayamim, c'est-à-dire également bayamim shalagalut et également dans les yamim de la geoula. En d'autres termes, on doit dire le troisième paragraphe du schéma et en période d'exil, et en période de ce que le Talmud appelle Yemot Amashiach. C'est ce que disent Chachamim Omrim, Yemei Chayecha Haolam Azeh, Kol Yemei Chayecha Lavi Limot Amashiach. Ça, c'est la traduction littérale de la Mishnah. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend? Qu'est-ce que nous apprend cette Mishnah qui semble être, encore une fois, une Mishnah assez technique, mais qui, en fait, regorge de secrets très profonds? Les amis, Mazé, l'iskor et yom tsetra meheret mitzraim, eh bien, l'iskor, ça ne suffit pas de sortir que tu es toi sorti d'Égypte. Dans la paracha du schéma, on dit, Ani Hashem Elohechem, Asher Otseti etrem meheret mitzraim. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire j'étais en Égypte et j'y suis plus, mais il faut bel et bien dire que c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Eh oui, sinon ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que cette halakha de dire le troisième paragraphe du schéma, c'est de proclamer haut et fort chaque jour que Dieu nous a sortis d'Égypte. Pas simplement qu'on est sortis d'Égypte, mais que Dieu nous a sortis d'Égypte. Donc, eh bien, lorsque je prononce ce troisième paragraphe du schéma, je colle un post-it, si je veux, si on peut dire comme ça, sur Dieu, en disant « Dieu sait le sorteur d'Égypte. Le sorteur d'Égypte. D'ailleurs, si on va aller un petit peu plus loin dans cette dimension de carte d'identité, eh bien, on se rendra compte que la bracha qui vient clore le schéma, car vous savez bien que nous avons une bracha qui ouvre le schéma et une bracha qui ferme le schéma. Et le matin et le soir d'ailleurs. Nous avons les birkot kriyat shema. Et quelle est la bracha qui vient fermer le schéma? C'est la bracha qu'on appelle Gaal Israël. On dit Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Et il y a une question qui est intéressante, c'est que veut dire le mot Gaal Israël? Quand tu dis Baruch Hashem, Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, quand tu viens clore la, le schéma et tu enchaînes dans la tefila, qu'est-ce que ça veut dire Gaal Israël? À quoi je dois penser lorsque je dis Gaal Israël? Eh bien, les amis, je ne vais pas vous rentrer dans un dans une étude technique de la grammaire hébraïque, parce que ça risque d'être un tout petit peu redondant, mais il y a quelqu'un qui l'a fait à ma place, et ce quelqu'un, c'est une quelqu'une, et cette quelqu'une, elle s'appelle Nechama Leibovitch. Nechama Leibovitch, eh bien, dans son commentaire de la Torah, de la Tfila, eh bien, elle nous explique que lorsqu'il y a marqué dans la Tfila, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, eh bien, le mot Gaal ne doit pas être compris comme étant du passé. À savoir, si on disait que c'était au passé, parce qu'on aurait, et elle nous explique comment est-ce que grammaticalement, on aurait pu penser que c'est du passé. Elle dit non, ce n'est pas du passé. Et donc, ça ne veut pas dire Dieu, c'est celui qui a libéré Israël. Donc, Diane Rama Leibovitch, elle l'explique très bien au niveau grammatical, que Gaal Israël veut dire que c'est son métier. Hagoel Shel Israël tout le temps. C'est-à-dire, c'est le libérateur d'Israël au présent continu. De la même façon que quand tu demandes un coiffeur, tu appelles ça un sapar, que tu demandes un menuisier, c'est un nagar, que tu demandes un cuisinier, c'est un tabar. Eh bien, quand tu demandes un libérateur, c'est un Gaal. Gaal Israël, c'est donc la définition de qui est Dieu, du moins comment il se dévoile à moi. Il se dévoile comme étant celui qui libère Israël. Donc, très bien, une fois que je comprends cela, eh bien, je le comprends tout à fait dans ma Mishnah. Je dois préciser tous les jours que Dieu est celui qui nous a sortis d'Égypte. Pourquoi? Ben, c'est comme ça qu'il nous a libérés. Tov. Le problème, c'est que si on revient dans notre Mishnah deux petites secondes et qu'on va faire un tout petit peu une étude très rapide, métalmudique, eh bien, on va se rendre compte que le verset nous dit qu'il faut se rappeler du jour où on est sorti d'Égypte, Kol Yemei Chayecha. Et on a dit, tout le monde est d'accord que le mot Kol nous apprend quelque chose, mais Benzoma nous dit que ça nous apprend la nuit, Chachamim nous dit que ça nous apprend Galout Vegeula. Cela veut dire que pour Chachamim, on ne dira jamais le troisième paragraphe du schéma le soir, puisque eux ne l'apprendront pas. De la même façon, pour Benzoma, eh bien, on ne dira plus du tout le troisième paragraphe du schéma pendant la Géoula, puisque lui, il apprend uniquement le mot Kol comme étant la nuit, donc c'est-à-dire pendant l'exil. La halakha, elle est comme qui? Comme Benzoma ou comme Chachamim? Il semblerait que la halakha, elle soit comme Benzoma. La preuve en est que depuis Benzoma, on dit le troisième paragraphe du schéma le soir. Mais comment se fait-il que Benzoma, qui est Da'at Yachid, eh bien, qui est un avis minoritaire, eh bien, va être tranché la halakha comme lui? Eh bien, en vérité, si on veut comprendre cette Mishnah-là, comme la semaine dernière, on doit aller voir quelques lignes plus loin dans le Talmud, puisque le Talmud continue la discussion entre Benzoma et Chachamim. Et nous dit Benzoma la chose suivante. Benzoma a dit au Chachamim, Yetziat Mitzrayim, Baskirim Yetziat Mitzrayim, Behemot HaMashiach. Pose la question Benzoma et dit, comment? Vous êtes en train de me dire qu'on doit rappeler la sortie d'Égypte durant les temps messianiques? Mais enfin, comment est-ce possible? Vous dites n'importe quoi. Nous dit Benzoma, j'ai un verset noir sur blanc qui dit le contraire. Ah bon? Quel est ton verset? Eh bien, nous dit Benzoma, il est marqué dans le livre de Jérémie, au chapitre 23, je cite le verset. « Ine yamim baim neum Hashem » Viendra un temps. « Velo yomru od » On ne dira plus « Chai Hashem » asher e'ela et bene Israël me eretz Mitzrayim » Nous dit Ben Zoma, le verset de Jérémie dit « Yad viendra un temps où, quand on parlera de Dieu, on ne dira plus « Dieu est celui qui nous a fait sortir d'Égypte » Ela ki im » Chai Hashem, Asher Ela, ve Asher Evi et Zera Bet Israël, mais Eretz Tsafona, ou Mikola Aratzot, Asher Idartim, Sham. Mais viendra un temps où on dira, quand on parlera de Dieu, c'est celui qui nous a fait sortir de la terre du Nord et de tous les pays dans lesquels il nous a exilés. Donc, dit Ben Zoma au Chachamim, tu me dis qu'on continuera toujours à dire le troisième paragraphe du schéma, c'est-à-dire qu'il nous rappelle Dieu comme étant sorteur d'Égypte. Ah, tu poses la question, Alex pose la question, comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne tranche pas la halakha clairement? C'est-à-dire que si on est bel et bien en Géoula, pourquoi est-ce qu'on continue à dire le troisième paragraphe du schéma? C'est ça ta question? Eh bien, la réponse est très simple. Semble-t-il, parce que le grand rabbinat d'Israël n'a pas encore entendu le cours « La Neshama de la Mishnah, partie 2 ». Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore tranché. Il me paraît évident que lorsqu'ils auront entendu ce cours, eh bien, ils trancheront. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On verra bien. Quoi qu'il en soit. Donc, nous dit Ben Zoma, viendra un temps où, et ce temps-là, c'est quoi? Bah, c'est Yemot HaMashiach. On ne dira plus, quand on parle de Dieu, c'est celui qui nous a sortis d'Égypte. Alors, on dira quoi? Eh bien, on dira Dieu, mais bien sûr, c'est celui qui nous a sortis de la terre du Nord et des pays dans lesquels il nous a exilés. Bon, les amis, venez, on traduit ça en termes qu'on comprend un petit peu plus. C'est quoi les terres du Nord? C'est la Russie, la Pologne. Et toutes les terres dans lesquelles il nous a exilés, c'est quoi? C'est le Yémen, l'Irak, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la France, et ainsi de suite. En d'autres termes, nous dit Jérémie, Rabotai, quand on présente Dieu comme étant le libérateur d'Égypte, c'est parce qu'on veut montrer sa grandeur et que c'est énorme que Dieu nous ait fait sortir d'Égypte. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Alors je dis, bah, très bien, c'est fantastique, c'est extraordinaire, tout ce que vous voulez. Mais nous dit Ben Zoma, mais Yemot HaMashiach, c'est beaucoup plus fort que la sortie d'Égypte. Bien sûr que c'est beaucoup plus fort que la sortie d'Égypte. Pourquoi c'est beaucoup plus fort que la sortie d'Égypte? Eh bien, c'est beaucoup plus fort parce que, durant la sortie d'Égypte, on est sorti d'un pays après 200 ans. Alors que, ben là, les Yemot HaMashiach, on est sorti de 100 pays après 2000 ans. Vous comprenez que notre Géoula actuelle est infiniment plus grande que celle que nos ancêtres ont vécue en Égypte. Donc, dit Jérémie, bah, évidemment qu'à un moment donné, tu vas pas parler de Dieu comme celui qui nous a sortis d'Égypte, puisqu'on a vécu quelque chose de beaucoup plus grand. D'ailleurs, entre parenthèses, avant que Dieu sorte les Bnei Israël d'Égypte, comment les Juifs parlaient de lui? Puisqu'on a dit qu'il est Gaal Israël, qu'il est Goël et Israël Tamid. Donc avant que les Bnei Israël sortent d'Égypte, quand ils parlaient de Dieu, ils parlaient de qui? C'était quoi sa carte de visite à ce moment-là? Hein? Eh bien, la carte de visite de Dieu à ce moment-là, c'était celui qui nous a sortis de Ur-Kasdim. Tout le monde connaissait la Haggadah de Ur-Kasdim, que Dieu a sorti Abraham de la fournaise et qu'il l'a sorti de là-bas par miracle et que grâce à ça, il l'a amené en Eretz Israël. Ah, Ur-Kasdim, c'est Yafemeod. Oui, mais d'accord, mais Ur-Kasdim, c'est quand même vachement moins puissant que la sortie d'Égypte. Donc, lorsque, eh bien, on sort d'Égypte, on éclipse complètement la sortie de Ur-Kasdim. Parce que c'est tellement plus grand la sortie d'Égypte que tu vas pas continuer à parler de quelque chose de va dire de katan, hamoud, quand tu arrives quelque chose d'énorme. D'accord ? Ben, il en va de même, nous dit Yirmiyahu, que lorsque va arriver, pour de son point de vue, Yemot HaMashiach, ça sera tellement plus grand que Yetziat Mitzrayim qu'on rappellera plus Yetziat Mitzrayim, qu'on parlera de Dieu comme étant celui qui nous a fait ouvrir la Sornout. Eh ben oui ! On va pas continuer à fêter quelque chose qui relève de la dimension du Katan si on a quelque chose de Gadol. Je donne un exemple très concret. Il y a plusieurs communautés en exil qui ont eu des persécutions et qui ont été libérées de ces persécutions. Dans beaucoup de ces communautés, eh bien, elles ont instauré un jour de fête qu'elles ont appelé Pourim X. C'est-à-dire, on a un Pourim de Francfort, on a un Pourim de Constantine, on a un Pourim d'Algérie. C'est des communautés qui, à un moment donné de leur histoire, ont eu un rachat qui a voulu faire des décrets terribles contre eux et par plein de moyens, ils ont été sauvés. Et donc, ces communautés avaient décrété des pourrimes. Mais c'était des pourrimes internes à la communauté. Bah aujourd'hui, avec la création de l'État d'Israël et la sortie de l'exil complet, tous ces pourrimes-là, bah plus personne ne les fait. Parce qu'on vit quelque chose de tellement plus grand qu'on ne va pas se rappeler d'un petit événement qui s'est passé dans une communauté X ou Y. Donc, on voit bien qu'il y a ici cette dimension de quand tu arrives à quelque chose de tellement plus grand, tu ne vas pas rappeler ce qu'il y avait avant. Seulement, les Chachamim ne restent pas en reste. Les Chachamim ne vont pas se laisser comme ça dominer par Benzoma sans rien dire. Et donc, les Chachamim continuent et répondent. Et disent, Amroulo, ils lui ont dit à Benzoma, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה שעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. וחכמים דיז, אקוד בן זומה, לברסי קיומן, הוא קונה, זה ספטיק. Mais ne crois pas que ça veut dire qu'on ne parlera plus du tout de la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte deviendra secondaire dans l'importance, et Shiaboud Malchouyot, la sortie de l'exil bimillénaire, sera le Icar. D'où sortent-ils le fait que, même pendant la Géoula, on continuera à évoquer la sortie d'Égypte? Eh bien, ils disent, bah, nous aussi, on a un verset. Il y a marqué, à propos de Yaakov Avinu. Dieu lui dit, Lo Icare Shimcha od Yaakov, ki im Israël Yeshemecha. On ne t'appellera plus Yaakov, mais on t'appellera Israël. Il a fait Méod. Sauf que on regarde dans la Torah et on voit que après que Dieu ait changé de nom à Yaakov, eh bien, il est réappelé Yaakov, des fois même par Dieu. Donc, de là, Chachamim, ils te disent, tu vois bien que ça veut pas dire que quand on te dit, on ne dira plus que tu t'appelles Yaakov, ça veut pas dire qu'on dira plus. Ça veut dire on dira moins. Et le Icar deviendra Israël, et le moins important, mais quand même présent, sera Yaakov. Et donc, eh bien, il en va de même pour notre situation à nous. Certes, on est d'accord avec toi que Shiaboud Malchuyot, la sortie, on va dire, de notre exil, c'est infiniment plus grand que la sortie d'Égypte, mais ce n'est pas une raison pour complètement occulter l'idée de la sortie d'Égypte. Non, ce n'est pas une raison. Certes, la sortie de l'exil de Rome sera le Icar, mais Yetziat Mitzrayim sera toujours là, mais t'es là. Donc, pour répondre à ta question maintenant qu'on a vu cela plus en profondeur, Alex, pourquoi on ne tranche pas ? Ben, on a tranché. On a tranché comme Chachamim, à savoir qu'il faut dire les deux. C'est-à-dire qu'on va continuer à dire, on a dit Fira pendant la nuit comme Benzoma, et on dit comme Benzoma et Chachamim pour Yemot HaMashiach. C'est-à-dire qu'on continue à dire la nuit comme Benzoma, mais Chachamim disent oui, mais on doit continuer à le dire également Yemot HaMashiach, même si on est d'accord avec toi que le Hallel de Yom HaAtzmaout est plus important que le troisième paragraphe du Shema le soir. Mais les deux doivent être présents. Et la question est de savoir lama. Pourquoi doit-on continuer à l'inscrire Yetziat Mitzrayim Balelot tout le temps? Pourquoi est-ce que si on est arrivé à une dimension énorme, qui est notre dimension actuelle, hein, comprenez bien que David Ben-Gurion, qui déclare l'indépendance d'Israël à Tel Aviv le 14 mai 1948, c'est une dimension de miracle qui est incroyablement plus importante que les miracles de la sortie d'Égypte. Et j'aimerais qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, parce que sinon on ne comprend pas notre Mishnah. Eh bien, il faut comprendre une chose. Pourquoi est-ce que, d'un côté, il faut garder Yetziat Mitzrayim, mais de l'autre, comprendre quel est Tefela? Eh bien, pour comprendre, je vais aller dans l'autre sens. Je vais comprendre d'abord pourquoi c'est Tefel, et ensuite, pourquoi c'est important de le garder. Rabotai, Ayom Ha'atzmaout, c'est assez différent de la Yetziat Mitzrayim. Yom Ha'atzmaout, c'est un jour énorme, mais il n'y a pas eu de miracle. Ou du moins, il n'y a pas eu de miracle tel que le Talmud l'entend, c'est-à-dire chamboulement des lois de la nature. Alors que la sortie d'Égypte, les 10 plaies, la mer Rouge. En quoi, lorsqu'il n'y a pas de miracle, c'est mieux que lorsqu'il y a des miracles? Je pourrais vous dire que c'est l'enseignement du Rambam dans son introduction du commentaire du livre de Shemot. Mais je voudrais qu'on comprenne bien. Vous savez, la liste des fêtes juives, est mentionnée dans le livre de Vayikra, dans la paracha de Emor. Quand on regarde cette liste des fêtes, elle commence par le Shabbat. Or, eh bien, vous le savez comme moi, le Shabbat, ça vient nous rappeler la création du monde. Bah oui, Zikaron et Maaseh Bereshit. La création du monde, c'est Dieu qui a tout fait. Donc, pour pouvoir acquérir un petit peu de la Kedusha du Shabbat, pour participer à cette Kedusha-là, je dois, entre guillemets, cesser d'exister en tant qu'être humain. Arrêter d'intervenir. Parce que je n'étais pas là quand il y a eu la création du monde, je n'y ai rien fait, je n'ai pas du tout participé. Donc pour pouvoir hériter de cette Kedusha-là, je me dois de ne rien faire. Et donc Shabbat, toutes les melachot sont interdites. Ensuite, on a d'autres fêtes qui sont les Yom Tov. Les Yamim Tovim sont tous, que ce soit Rosh Hashanah, Yom Kippour, Pessah, Shavuot, Sukkot, sont tous en relation directe avec la sortie d'Égypte. Durant la sortie d'Égypte, qui a fait le boulot? Eh bien, Dieu. Oui, mais pas à fond. C'est-à-dire que Dieu a fait 90% du travail. Mais il a laissé un petit 10%. C'est quoi? Ben nous, nous sommes sortis d'Égypte. C'est-à-dire qu'on a quand même participé. On a pris nos petits pieds et on est sortis. Certes, Dieu a fait le gros du travail, mais on a fait quelque chose. Ce qui veut dire que pour acquérir la Kedusha de Yom Tov, on n'est pas obligé de complètement s'arrêter. On a le droit de faire ce qu'on appelle Melechet Ochel Nefesh. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire les travaux qui servent à préparer à manger, qui sont les bases de la subsistance de l'homme. Puisque j'ai un peu participé, j'ai le droit d'un peu exister pour pouvoir hériter de cette Kedusha-là. Zeyoter Tov, je suis moins effacé. Et puis après, dans l'histoire, on arrive à Pourim. Pourim, ouah. Pourim, qui a bossé? C'est Mordechai et Esther. Nachon, c'est Mordechai et Esther. Mais d'un autre côté, c'est Dieu. Et il est caché. Mais il est dans la Megillah. Mais il est caché. Donc, comme il est caché, à Pourim, tu peux tout faire. Oui, mais attention. Tu n'as pas le droit de planter d'arbres ni de construire de maison à Pourim. Lama? Parce que c'est une fête de Chutz La'aretz, Pourim. C'est une fête d'exil. Tu ne peux pas créer des dimensions d'éternité comme planter un arbre ou construire une maison pendant ce jour-là. Et puis on arrive à Hanouka. Ah, Hanouka, ça c'est bon. C'est une fête d'Eretz Israël. Nachon. Mais qui a fait le boulot à Hanouka? Ben, c'est nous. À 90%, c'est nous. C'est les Maccabim qui ont battu les Grecs. Ah, Dieu s'est gardé un petit 10% quand même. Vous savez, le miracle de la petite chole d'huile. Donc, à Hanouka, on peut tout faire. Comme Melachot. Aval, pour se rappeler des 10% de Dieu, eh bien, on a l'habitude, nous dit le Mishnah Brura, on a le minag, pendant la demi-heure où les bougies sont allumées, de ne pas faire de Melachot. Et puis arrive enfin Yom Ha'atzmaut. C'est une fête où 100% du travail a été fait par Dieu et 100% du travail a été fait par l'homme. En d'autres termes, la Kedusha de cette journée-là, Eh bien, l'homme n'a plus besoin de s'effacer pour la partager. En d'autres termes, on pourrait dire que Yom HaAtzmaout, c'est le jour où la Kedusha a atteint sa Atzmaout, son indépendance. En d'autres termes, Yom HaAtzmaut, c'est le jour, ce qu'on appelle dans notre Mishnah, Yemot HaMashiach. Eh bien, Yemot HaMashiach, c'est tout simplement le moment où la relation entre l'homme et Dieu n'a plus besoin d'avoir un écran, un effacement de l'homme pour participer au dévoilement divin. Seulement, pour pouvoir hériter de Yom HaAtzmaut, il nous faut la sortie d'Égypte. Pour pouvoir être au niveau de devenir un peuple libéré du joug des goyim, tu as besoin de Yom HaAtzmaout. Tu as besoin de Yetziat Mitzrayim. Ce n'est pas seulement une réalité toranique. C'est une véritable réalité historique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé quelques mois avant la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Rappelez-vous, lorsque David Ben-Gurion est en visite aux États-Unis, et lorsqu'il est en visite aux États-Unis, eh bien, il rencontre une panelle de juges suprêmes, de la Cour suprême, qui ne sont pas du tout d'accord avec l'idée de ces juifs de Palestine de créer un pays indépendant. D'ailleurs, les États-Unis, plus tard, lorsque l'aide de camp, si on veut, le numéro 2 de Ben-Gurion, qui s'appelait évidemment Moshe Charette, est envoyé aux États-Unis juste avant la déclaration d'indépendance pour voir si les Américains seront derrière nous, eh ben, Moshe Charette revient avec une réponse négative. Les Américains ne seront pas avec nous, a priori. Ils vont, dès le lendemain, reconnaître la déclaration d'indépendance, mais ils ont dit non au départ. Et donc, quelques temps avant, lorsque Ben-Gurion était aux États-Unis, il a entendu par ses juges qui lui disent « Non, mais enfin, c'est pas une vous êtes tombé sur la tête de vouloir faire un pays. » Et là, David Ben-Gurion leur répond la chose suivante. Il dit « Messieurs les juges, dites-moi, est-ce que vous avez connaissance de l'histoire du Mayflower ?» Et là, les juges le regardent et lui disent « Yachutzpan !» Bon, ils ne disent pas en hébreu, mais ils disent « Tu es vraiment culotté. Tu nous demandes à nous, juges d'Amérique, si on connaît l'histoire du Mayflower, le Mayflower, c'est le bateau, c'est le nom du bateau qui a amené les premiers pionniers qui vont être à l'origine des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une histoire fondamentale pour eux, les pionniers du Mayflower. Alors, ils disent, non, mais tu dis, ils disent, ok, très bien, autant pour moi, vous connaissez l'histoire du Mayflower. Mais dites-moi, est-ce que vous savez quel jour ils sont arrivés? Ils disent, bah oui, on sait. Ils disent, d'accord, est-ce que vous savez à quelle heure ils sont arrivés? Non, pas vraiment, mais bon, c'est pas important. C'est le soir. Et dites-moi, est-ce que vous savez ce qu'ils ont mangé le jour où ils sont arrivés? Il dit, ben non, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé, mais on s'en fiche, c'est pas important. Et là, Ben-Gurion leur dit, ah, regardez les amis. Vous, le Mayflower, c'est une histoire qui est votre histoire fondatrice. Elle s'est passée il y a 300 ans. Et vous n'êtes pas capable de me dire à quelle heure ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils mangeaient et quel était leur état d'esprit à ce moment-là. Moi, mon histoire fondatrice, elle s'est passée il y a 3000 ans, quand mes ancêtres sont sortis d'Égypte. Et je peux te dire quel jour c'était, à quelle heure ils sont sortis et qu'est-ce qu'ils ont mangé. Alors vous n'allez pas m'apprendre à moi qu'est-ce que c'est être une nation. David Ben-Gurion, pour pouvoir créer l'État d'Israël et donc passer dans l'étape de Yemot HaMashiach, est obligé de se référer à Yetziat Mitzrayim. En d'autres termes, bien sûr que l'État d'Israël, c'est plus grand que la sortie d'Égypte. Aval, pour qu'on puisse arriver un jour à l'État d'Israël, eh bien, il faut la sortie d'Égypte. Mais pourquoi? Eh bien, pour une raison fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle la Mishnah nous dit que « Maskirim Yetziat Mitzrayim Mem Le'atid Lavo ». Pourquoi? Rabotai, vous savez, il y a une question de base. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont faim dans ce monde? Comment ça se fait qu'il y a des famines dans le monde? Comment ça se fait que tout le monde n'est pas heureux dans ce monde? Ah, c'est une grosse question que je pose là. Et je vais donner une réponse qui paraît peut-être simpliste, mais en vérité, j'y crois vraiment. Je pense qu'il y a une famine dans ce monde, des fois, dans des endroits, parce que les gens, le monde, ne croient pas vraiment à la liberté. L'idée de libération, de liberté, eh bien, c'est une fausse idée reçue. Je m'explique. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'il y ait un seul être humain sur Terre qui ait faim. Aucune raison. La mondialisation, la technologie font qu'on a suffisamment d'argent, de ressources et de denrées pour nourrir des keufs toute la planète. Mais tranquille, quoi. Je ne vais pas m'avancer, mais je pense qu'il y a aussi assez d'argent et tout ça, si c'était réparti comme il faut, pour que toute personne ait une maison avec piscine. Mais Bekef, Aval, vu qu'on ne croit pas vraiment à l'importance de la chérout, de la liberté, eh bien, ça ne se fait pas. Et on est très content, quelque part, des fois, qu'il y ait certaines personnes qui sont toujours esclaves pour satisfaire ma liberté. Je ne suis pas communiste, hein, du tout. La Torah non plus, même si elle a des dimensions communistes. Je ne suis pas socialiste, du tout. La Torah non plus, même si elle a des dimensions socialistes. Je ne suis pas capitaliste, non plus. Mais la Torah non plus, même si elle a des dimensions capitalistes. Mais il y a évidemment des notions qui sont erronées dans notre société et qu'on doit combattre. Et évidemment que la répartition des richesses, elle n'est pas faite comme il faut. C'est évident. Et posons-nous la question. Quand il y a, et on le sait, des vêtements, des objets qui sont fabriqués dans certaines contrées où on mange certaines chauves-souris, voire pangolins, et que les gens y travaillent pour $1 du mois, mais c'est évident que c'est de l'esclavage. Et quelque part, eh ben, on est tous très contents. On se bat pas tous contre ça. Et c'est un vrai problème. Qu'en est-il qu'on n'est pas vraiment ma'amin bechérout. Que cette liberté, elle doit toucher le monde entier. Qui peut apprendre cela au monde, et pour l'instant ne le fait pas, mais devrait le faire, Am Israël. Am Israël, pourquoi? Parce qu'il est celui qui a appris au monde l'idée de chérout, l'idée de liberté. Matai, Beitziat Mitzrayim. Vous vous rappelez dans la Haggadah de Pessah, eh bien on dit une phrase quand même bizarre. On dit Ilu lo tzi akadosh baruch hu et avotenu mi Mitzrayim, are anu uvanenu uvne vanenu meshoabadim ayinu leparo be Mitzrayim. Si Dieu ne veut pas, ne nous avait pas sortis d'Égypte, alors on serait toujours esclaves de Pharaon en Égypte. On peut vraiment se poser la question, franchement. L'Égypte, elle a évolué en 3000 ans. Il n'y a plus de Pharaon. C'est-à-dire quoi? On serait toujours esclaves de Pharaon en Égypte. Le Rav Kook explique que avant que Am Israël ne sorte d'Égypte, l'idée même de sortir un esclave de sa condition d'esclave n'est pas possible. Ça n'existe pas dans les consciences. C'est un ridouche de la sortie d'Égypte qu'on peut véritablement être libre. Tant que Am Israël n'est pas sorti d'Égypte, l'idée de liberté n'existe pas. D'ailleurs, en Égypte, personne n'est libre. L'Égypte, dans la Torah, s'appelle Beit Avadim. Pas seulement la maison de l'esclavage. Pas seulement à cause de nous. Nous, on était esclaves des Égyptiens, mais les Égyptiens étaient esclaves de Pharaon. Pharaon était esclave des dieux. Les dieux étaient esclaves du Nil. C'est-à-dire qu'en Égypte, tout le monde est esclave. L'idée de liberté, eh bien, c'est le chidouche de la sortie d'Égypte. C'est parce que nous avons été libérés durant la sortie d'Égypte que l'idée de liberté a été donnée à l'homme, qui va faire que même si l'homme redevient esclave, redepart en exil, eh bien, il sait qu'il va pouvoir ressortir d'exil. C'est la réponse que donne Rabbeinu Yitzhak Abrabanel sur la question avec laquelle il ouvre son commentaire de Pessah. Où il dit, c'est bizarre de fêter la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la sortie d'Égypte, la sortie de l'exil. Mais dit Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il y a 450 ans, il dit, mais voilà, nous, on est revenus en exil. Donc, à quoi ça sert de faire Pessah si c'est pour être... Il dit Abrabanel, parce que comme on est sorti une fois de l'exil, eh bien, ça prouve qu'on peut toujours sortir d'exil. Et que donc, l'exil n'est pas une fin en soi, mais n'est qu'une étape de l'histoire et on peut en ressortir. Et donc, on va en ressortir. Pour l'époque de Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, nous, on en est sorti. En d'autres termes, on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi, eh bien, on se doit bien qu'on sache que Dieu, sa carte d'identité, c'est aujourd'hui plus celui qui nous a sortis d'Égypte, mais c'est bel et bien celui qui nous a sortis de France, d'Amérique, de Russie et d'ailleurs, on se doit de se rappeler qui nous a sortis d'Égypte. En d'autres termes, le barbecue de Yom HaAtzmaout prend toute sa dimension de Kedusha lorsque tu as mangé les matzot à Pessah. Le barbecue de Yom HaAtzmaout devient véritablement la concrétisation de 2000 ans d'exil, de sortie donc de cet exil, lorsque, avant cela, tu as mangé tes matzot à Pessah et que tu as expliqué que la sortie d'exil est possible. La carte d'identité du Créateur, ça aurait pu être le Créateur. Seulement pour nous, peuple juif, eh bien, il nous a demandé qu'on l'appelle comme étant celui qui libère, comme étant celui qui est Goel Tamid. Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, c'est la bracha qui vient clore ce Kriyat Shema. Lorsque la Mishnah nous dit Maskirim Yetziat Mitzrayim Balelot, ça veut dire que pendant l'exil, évidemment qu'on va se rappeler de la sortie d'Égypte, parce que c'est ça qui nous rattache à un espoir. Mais lorsque Ben Zoma nous dit « Oui, mais attention, Behemot HaMashiach, non !» Eh bien, heureusement que les Chachamim sont arrivés pour nous dire « Non, on va quand même s'en rappeler. » Parce que si tu ne rappelles plus la carte d'identité de Dieu comme étant le sorteur d'abord d'Égypte, alors tu ne sauras pas ce que ça veut dire que Dieu t'a sorti également de Russie et ainsi de suite. Ah, mais si ce que je viens de dire est vrai, alors il faudrait quand même se rappeler aussi de la sortie de Our Kasdim. Eh oui, parce que si on a dit que chaque sortie en fait se base sur la sortie d'avant, que ou Goel Tamid, on devrait quand même s'en rappeler. Eh bien, c'est ce qu'on fait à Pessah. À Pessah, eh bien, quand on parle de la sortie d'Égypte, on parle également de quoi ? De Mitechila Ovde Avodazara Yoavotenu. Et quoi ? Mais Ever Lanar Ayoavotenu. Et on te parle de Terach, et on te parle de Avraham, et on te dit que Arami Ovedavi. Et on te parle du fait que Avraham a été sorti de là-bas. En d'autres termes, dans la Haggadah, on va te rappeler, on va évidemment, on va insister sur la sortie d'Égypte, parce que du point de vue de la sortie d'Égypte, c'était ça le Icar. Mais la sortie d'Avraham est quand même là, même si elle est beaucoup moins mise en avant. Et donc aujourd'hui, eh bien pareil, il y a statistiquement plus de juifs qui s'associent à Yom HaAtzmaout, qui mangent un falafel, on va dire, à Yom HaAtzmaout, que de juifs qui mangent de la matzah à Pessah. Statistiquement, c'est une réalité. Évidemment, je ne suis pas pour manger pas de la matzah à Pessah. Il faut manger de la matzah à Pessah, mais on comprend que les paroles de Yirmiyahou se sont réalisées. Et effectivement, nous sommes arrivés dans une génération où nous pouvons crier la carte d'identité de Dieu. La carte d'identité de Dieu, c'est Gaal Israël, celui qui a pour métier de Ligol et Israël, chez Abraham, en Égypte et chez nous. Il a fait. Est-ce que c'est tout ce qu'on a à mettre sur sa Teudat Zehout ? Eh bien, la vérité, c'est que non. Le Talmud, sur cette Mishnah, continue à poser des questions, continue à nous poser plusieurs questions. Eh oui, à propos de Yaakov, mais en vérité, il y a une autre question qui est posée sur, de manière générale, la façon dont on perçoit Dieu. Eh oui, n'oubliez pas que lorsque Dieu nous parle de rappeler la sortie d'Égypte, qui est le propre de notre Mishnah, eh bien, il nous dit « Le man tesaper be'ozne bincha ou ben bincha » Donc, se rappeler de la sortie d'Égypte, nous on fait ça avec la troisième paragraphe du schéma, mais l'ordre de Dieu, c'est « Le saper be'ozne bincha ou ben bincha et asher italalti be'mitzrayim » Que je me suis italalti face aux Égyptiens. Et le problème, c'est que quand on parle hébreu moderne, on se dit « italalti », ça veut dire « je les ai persécutés ». Et quoi, c'est ça que je dois transmettre à mes enfants, mes petits-enfants ? Le man tesaper beozne bincha ou ben bincha et asher italalti bemitzrayim. C'est ça la carte d'identité de Dieu ? Behemet ? À cela vient répondre Rabbeinu Bechaye et nous dit pas du tout. Le italel, ça ne veut pas dire persécuter. ça veut dire être devenu illa. Aïlla. Mazé aïlla. Illa, c'est une cause. Dans la Ptirta de Ptirat Eliyahu Hanavi Zechur Latov, on dit Antehu, illa ta'ilot vesibat asibot. Il est la cause de toutes les causes. En d'autres termes, Ribono Shel Olam veut nous dire, voilà, les Égyptiens, ils pensaient qu'ils avaient une cause première, le Nil, qui était la base de toute leur divinité. En frappant le Nil, en frappant leur divinité, je suis devenu la cause première à leurs yeux. T'es sa père, Beozne Bincha ou Ben Bincha. T'es sa père dans toutes les générations. Et ta chair, it alalti be Mitzrayim. Le fait que je me suis dévoilé aux yeux des Égyptiens comme étant la source première, l'identité première. Rabotai, cette Mishnah nous dit la carte d'identité de Dieu, c'est qu'il est la cause première et qu'il a choisi de se dévoiler dans ce monde comme étant celui qui libère le monde. Par l'intermédiaire de Yetziat Mitzrayim, par l'intermédiaire dans notre génération de Yetziat Europa vers America, vers Amizrach, vers Tzvon Africa et tout ce que vous voulez. Grâce à cela, eh bien, Akadosh Baruch Hu peut être dévoilé comme étant le libérateur. Tout cela n'aura été possible que parce que on s'est servi de l'espoir de la sortie d'Égypte pendant tout l'exil et on est conscient dans notre sortie d'exil qu'elle n'a été possible que grâce à elle, à ce point de départ que Akadosh Baruch Hu, Gaal et Israël, lorsqu'il nous a sortis d'Égypte, et que grâce à cela, il nous a donné cette possibilité d'être toujours dans cette recherche de la liberté. Voilà ce que nous apprend cette Mishnah qui vient clore notre étude de traité de Brachot. Et la semaine prochaine, eh bien, on rentrera dans une nouvelle Mishnah, très certainement dans le traité de Shabbat. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures de la Neshama de la Mishnah. À bientôt les amis. S'il y a des questions, je coupe pas tout de suite. S'il y a des questions, c'est le moment de poser la question avant de couper la vidéo. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je laisse quelques secondes. Question, pas de question? Pas de question? Bon, alors très bien. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. À bientôt.